Vous êtes sur RTL. 14h30, 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus chez vous, car On est fait pour s'entendre, c'est le magazine de société qui ne pourrait exister sans vous, sans vos témoignages, sans vos éclairages et vos réflexions qui nous éveillent un peu plus chaque jour. Et pour participer à nos conversations, vous pouvez composer dès maintenant le 3210 et vous viendrez parler avec moi sur cette antenne. Et si vous êtes timide ou si vous êtes indisponible au téléphone, eh bien je vous lirai sur nos réseaux sociaux, Facebook ou encore Twitter. Place au sujet du jour. Les jeunes d'aujourd'hui sont-ils plus violents que nous au même âge? Nous assistons depuis plusieurs semaines à une recrudescence d'actes de violence très graves de la part de mineurs. Les rixes, règlements de compte ou encore agressions se multiplient et certains d'entre eux finissent en drame, comme la mort tragique de la jeune Alisha, retrouvée noyée, ou celle de Lilibelle, décédée d'un coup de couteau. Elles avaient toutes les deux 14 ans. Alors comment expliquer cette violence extrême qui se répète? Quelles en sont les origines et les facteurs aggravants? Comment la prévenir et l'enrayer? De quelle façon accompagner nos adolescents? On en parle aujourd'hui avec nos invités. Jean-Pierre Rosenzweig, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny. Vous êtes enseignant en droit pénal des mineurs à Nanterre et auteur de différents ouvrages. J'en citerai deux. Édition Le Seuil, Rendre justice aux enfants et les droits de l'enfant pour les lunes, des nuls, aux éditions First. Merci d'être notre invité. À vos côtés, Jean-François Dortier. Bonjour Jean-François.
Bonjour.
Soyez le bienvenu. Merci d'être avec nous. Vous êtes humanologue et vous êtes fondateur de la revue L'Humanologue. C'est une revue trimestrielle. Messieurs, on va tout de suite accueillir au téléphone Mickaël Stora. Bonjour Mickaël.
Oui, bonjour Flavie.
Soyez le bienvenu Mickaël Stora. Vous êtes psychologue, psychanalyste et cofondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. On vous a demandé d'être avec nous jusqu'à 15h parce qu'évidemment on va parler de l'influence des réseaux sociaux et je crois savoir que Jean-Pierre Rosenzweig, vous avez un point de vue assez tranché sur la question. Néanmoins, on va commencer, si vous le voulez bien, avec un son. Il est très loin, le temps de la guerre des boutons.
Qu'est-ce que tu vas me faire? Allez, reculez vous autres! Faut que tout le monde voit! Alors les gars, qu'est-ce qu'on lui coupe?
Les oreilles!
La langue! Bizi!
Si tu me touches, je le dis au curé, puis au maire du pays! Alors les gars, on commence par le haut?
Ouais!
Les oreilles d'abord, tenez-le bien!
Oh non! Oh non, fais passer le break! Non, non!
Crouillard! C'est le dos du couteau, t'as pas honte? Ils sont tous comme ça dans ton bled!
Et dans la guerre des boutons, ça se termine effectivement par non pas couper les oreilles, non pas couper le kiki, mais couper les boutons. Jean-François Dortier, c'est quand même.
Ça nous rappelle que les histoires de rixes entre bandes, c'est pas nouveau. Donc il y a évidemment. J'ai cité dans l'Humanologue récemment, dans un article, cette histoire de la guerre des boutons, pour se rappeler. Elle date de 19... Le roman date de 1912 et le film de 1962.
Ouais.
Et donc, c'est une histoire assez banale. C'est pas tout à fait des bandes. Là, il s'agit plutôt des petits clans d'enfants et pas d'adolescents. Mais quand même, c'est les gibus et puis qui sont contre un autre clan, et puis c'est à la sortie de l'école, et puis ça commence par une petite embrouille, et puis à la fin quand même, il y a de la cruauté, il y a du harcèlement, on fait peur, on terrorise. Alors il n'y a pas de mort, il n'y en a aucun qui reste sur le carreau, mais le film c'est quand même une succession de petites bagarres qui montrent que les choses existent depuis longtemps.
Jean-Pierre Rosenzweig, est-ce qu'effectivement vous avez, vous, dans votre pratique d'ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny, est-ce que vous avez vu le paysage de la violence de la jeunesse changé au cours de ces dernières décennies?
Oui et non, mais vous me permettez de réagir en anecdote sur ce qui vient d'être dit sur la guerre des boutons. J'avais totalement oublié que ce texte datait de 1912, mais 1912, c'est aussi la date de la première grande loi sur la justice pénale des mineurs. À l'époque, on a dû avoir le même débat à travers les bandes dont on parlait et la législation. On a créé le tribunal pour enfants en 1912.
Le tribunal pour enfants est né en 1912.
Le juge pour enfants a été créé en 1945. Mais les fondements de la justice pénale des mineurs, à savoir transformer l'enfant délinquant aujourd'hui pour qu'il ne soit pas délinquant toujours, ça date de 1912, en prenant du temps et des travailleurs sociaux.
C'était quand le cinéma s'emparait déjà, évidemment, de la société. Alors,
pour répondre à votre question, difficile de dire plus, si on a une démarche cartésienne, ça veut dire qu'on a des bases de départ, des bases de référence, on est dans le subjectif. La violence a toujours existé. La civilisation, c'est quoi? C'est de passer de la violence à la non-violence, sur le plan individuel, sur le plan collectif. Des bandes, il y en a toujours eu. Des rixes entre bandes, il y en a quasiment toujours eu, les blousons noirs.
Oui, dans les années 60.
Les abaches, j'en passe les meilleurs. Des histoires de cette nature-là, comme celles que nous avons vues ces jours-ci, avec des rixes, y compris avec des armes blanches et des armes, j'allais dire, pas des couteaux en bois, des serpes, des sabres. On l'a vu à Bobigny, il y a maintenant une vingtaine, à Bondy, pardon, il y a maintenant une vingtaine d'années, si vous le voulez. Donc le phénomène n'est pas nouveau. La question, c'est celle de son acuité. Et pourquoi elles émergent maintenant? L'importance des bandes, il y en a apparemment beaucoup, concentrées, dit le ministère de l'Intérieur dans la région parisienne, et effectivement, qui n'hésitent pas à défendre un territoire, à se battre pour des idées qui, je disais encore dans l'autre jour, les jeunes ne savent même plus pourquoi ils se battent, sinon que traditionnellement on se bat. Mais ça se voit dans d'autres milieux, regardez les supporters du Paris Saint-Germain entre eux, quand ils se donnent des rendez-vous pour faire la baston après le match. Souvenez-vous de ce qui se passait il y a 4 ou 5 ou 10 ans, qu'on a tous vu en direct, en plus.
Mais néanmoins, Michael Stora est spécialiste des réseaux sociaux, donc il va être en ligne avec nous. Notre société a changé, Michael Stora. Est-ce que la violence aussi a changé au contact de ces réseaux sociaux?
C'est toujours compliqué de stigmatiser les réseaux sociaux comme étant, d'une certaine manière, à l'origine. On observe évidemment cette forme de nouvelle viralité, le fait que caché derrière son écran, il est possible de pouvoir détruire l'autre. Mais cette réflexion sur le rajeunissement de la violence, entre autres, est en effet quelque chose qu'on observe. Et en tant que aussi spécialiste de la parentalité, je peux m'interroger sur finalement la nouvelle parentalité qu'on observe, l'absence de limites, la fragilité parentale et à quel point elle peut être aussi à l'origine d'une violence comme une nouvelle manière, d'éprouver son corps. Au fond, il s'agit d'adolescents, les rituels de passage ont totalement disparu. Est-ce que finalement ces conduites ordaliques, ces conduites à risque chez les adolescents qui sont un signe de grandes souffrances ne montrent pas aussi d'autres problèmes propres à notre société?
Alors, on va se retrouver dans un instant. On va en parler tous ensemble. On est ensemble jusqu'à 15h30. Si vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à vous composer tout simplement le 3210 ou alors vous vous rendez sur nos réseaux sociaux. Dans un instant, c'est Fanta Makalou qui va intervenir sur cette antenne. Elle est maman et elle est engagée justement sur le terrain parce que face au manquement, d'accompagnement, eh bien, il est des mamans qui ont décidé de s'emparer de la problématique de leurs jeunes. À tout de suite sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL. Sur RTL
jusqu'à 15h30.
Ça y va, déjà, dans ce studio. C'est Jean-François Dortier qui est notre invité aujourd'hui en compagnie de Jean-Pierre Rosenzweig, ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny. Il est enseignant en droit pénal des mineurs à Nanterre. Jean-François Dortier, vous êtes humanologue et vous étiez en train de me dire, vous êtes déjà en train de faire l'émission dans ce studio. Parce qu'évidemment, le sujet nous intéresse, nous interpelle, puisqu'aujourd'hui, on s'intéresse à la violence des jeunes. Les jeunes d'aujourd'hui sont-ils plus violents que nous au même âge? Michael Stora, vous êtes en ligne avec nous, vous êtes psychologue, psychanalyste et cofondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. Messieurs, on va essayer déjà de comprendre et de dessiner la violence d'aujourd'hui. Michael Stora, vous nous avez parlé d'un manquement parental. Aujourd'hui, peut-être que les jeunes manquent de points de repère dans leur vie. Alors, l'autorité est remise effectivement en question. Et Nicolas nous rejoint parce qu'il a un avis assez clair sur la question. Bonjour Nicolas. Est-ce que Nicolas est en ligne avec nous? Bon, alors Nicolas n'est pas en ligne, on va essayer de retrouver Nicolas. Jean-François Dortier.
C'est bon.
Bonjour Nicolas, soyez le bienvenu. Vous avez 59 ans, vous vivez à Reims. Alors déjà, est-ce que vous pensez que les jeunes d'aujourd'hui sont plus violents que nous au même âge?
La réponse est affirmative, oui.
Affirmatif, très bien. Disons, ça rigole pas avec vous. dites-moi, comment ça se passait de votre temps? Quelle est la différence, justement, que vous notez? Vous étiez un jeune, vous étiez bagarreur, vous avez été soumis à la violence?
Alors, écoutez, c'est pas compliqué. Moi, j'étais plutôt timide, et puis jusqu'au jour où, effectivement, j'ai compris que, vu ma stature, je pouvais me défendre. Mais ce que je disais à votre collaborateur, c'est qu'à l'époque... quand on s'attendait à la sortie pour se régler des comptes, c'était à mano. Mmh. Et donc, du coup, quand vous preniez un coup de poing dans la figure, un œil au bord noir, un coup de poing dans le ventre, ou ailleurs, vous aviez la notion de ce que c'était la douleur. Vous voyez, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'au niveau de l'école aussi,
au niveau lycée ou collège, en sciences naturelles, on apprenait le corps humain, on savait où était le foie, on savait à quoi servait le foie, etc. Ça vous fait peut-être un petit peu rigoler, mais en même temps, pour quelqu'un de normalement constitué au niveau de l'intellect, on savait que si on tapait très 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 fort, etc., etc., on pouvait
faire très mal. Ça pouvait être dangereux.
Voire tuer la personne.
Voilà, voilà. C'est ça. D'accord.
Okay. Donc, voilà. Donc, l'ensemble, ça, c'est un premier point. Donc, du coup, quand vous preniez vous-même un bon coup de poing dans la figure, tout ça, voilà, ça vous calmait.
Ouais.
Voilà. Vous voyez ?
D'accord.
Ils n'existent plus maintenant.
Alors, justement, comment ils sont, les jeunes d'aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous en retenez ? Vous êtes père de famille, Nicolas ?
Oui, tout à fait. Moi, j'ai deux enfants. Bah, écoutez, c'est simple. Moi, mes enfants, ils ne sont jamais battus.
Ouais.
Donc ils savent pas ce que c'est qu'un coup de poing dans la figure, un coup de poing dans le ventre.
Ouais.
Voilà. Hein. Après ils sont sur Internet, donc eux ils ont leur jeu avec 5 vies. Dès qu'ils en perdent une, ils en rachètent une autre.
Ouais.
Vous voyez ? Voilà. Donc du coup c'est ça. De plus, la société est devenue de plus en plus liberticide. Moi à mon temps, quand on se mettait sur la figure, comme je dis, il y avait pas les gendarmes qui arrivaient. Hein. On était convoqués au lycée, on se prenait des retenues, terminé, on se soignait, on rentrait à la maison, on changeait de chemise, on mettait un coton dans le nez pour éviter de saigner, et puis c'était terminé.
Ouais.
Là maintenant, et puis pour en terminer, au niveau de l'autorité parentale, s'il y avait quelque chose qui allait pas, vous avez déjà certainement entendu le discours, moi quand je rentrais et que je commençais à critiquer un professeur ou que je disais que c'était un abruti, voire un C, ben, déjà, mes parents, ils m'en mettaient deux. Déjà, pour commencer. Vous voyez ? Alors, c'est ça au niveau de l'éducation parentale. Et pour en terminer, moi, mes gamins, quand ils me manquaient de respect, ça est arrivé une fois, je peux vous dire que j'en ai retourné une à un de mes enfants.
Ce qui est interdit tourné, aujourd'hui. Hein. Avait... Ouais.
Oui, non, mais il faut arrêter, c'est interdit. Je l'ai pas tué. Faut arrêter aussi.
Non, mais
parce que du coup, ben, on fait une société comme ça, voilà.
D'accord. Donc, ce que vous dites, quand même, c'est que là, vous incriminez, évidemment, vous essayez de d'abord, vous dites qu'aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup plus violents. Vous nous expliquez que cette jeunesse est en manque de points de repère, que ces points de repère passent par l'autorité, passent par, l'éducation, aussi. Et on sent vraiment que, en fait, la jeunesse, selon vous, est déboussolée, hein, Nicolas, et n'a plus sens, peut-être aussi, de la préciosité de l'existence. Alors, on va demander
exactement
à Jean-Pierre Rosenzweig ce qu'il retient de vos propos.
La première chose que je retiens, c'est le fait qu'on devrait être prudent lorsqu'on dit les jeunes.
Mmh.
Les jeunes en général.
C'est noté d'ailleurs sur nos réseaux sociaux.
Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas violents, qui ne sont
absolument
jamais bégarés, qui ne sont jamais dans une situation à être, j'allais dire, à agresser ou être agressé. Si on va à l'autre bout du spectre, je disais encore dans l'article du Monde de ces jours-ci, cette mère de famille qui disait que son enfant était l'un de ceux qui avait participé à la rixe comme auteur, mais qu'un autre de ses enfants aurait très bien pu être victime. En d'autres termes, il y a des enfants issus des mêmes milieux qui peuvent être soit auteur, soit victime. Donc il faut être très prudent sur la généralisation. Alors, que beaucoup, votre interlocuteur a dit beaucoup de choses. Bien entendu que l'éducation parentale est quelque chose d'absolument essentiel. Je prends un exemple très concret que j'ai vécu. Mon père, à mon âge, c'est la guerre, c'était les cow-boys et les Indiens. Et on voulait tous avoir un pistolet pour jouer aux cow-boys. Et mon père m'a toujours dit, jamais d'armes à la maison. Après, j'ai compris, il avait fait la résistance, il a fait un certain nombre de choses. Pour lui, l'arme, ça signifiait des choses. Moi, j'ai été élevé dans la non-violence. Bon, tous les enfants ne sont pas élevés dans la non-violence. Et sur le sujet qui est le nôtre, ceux qui participent des bandes et ceux qui participent des rixes, ils n'ont pas d'autre solution, de leur point de vue, que la violence individuelle ou collective pour exister. Je laisse de côté le problème de virilité, parce qu'il y a aussi le problème des femmes, mais le problème de virilité des gamins. Donc ils n'ont pas d'autre manière d'exister et de faire garantir leurs droits que par la violence. Et dernière remarque pour terminer par rapport à ce que disait votre interlocuteur sur j'en ai reçu une ou j'en ai moi-même donné une à mes enfants et ça m'a pas tué ou ça n'a pas tué mon enfant. Souvenez-vous des violences faites aux femmes. Hein. Combien de mecs violentent leurs femmes en disant...
Elle n'en est pas morte.
Si tu sais pas pourquoi tu frappes ta femme, elle le sait. Non, on respecte les personnes, monsieur.
Là, hein.
On respecte les personnes, quelles qu'elles soient. On peut éduquer quelqu'un sans lui frapper dessus et sans l'injurier ou le diffamer.
Alors, on va se retrouver, messieurs, si vous le voulez bien, sur l'antenne d'RTL. On va donner la parole à Jean-François Dortier. Nicolas, vous restez avec nous. Et puis, Mickaël Estorin, on reviendra aussi sur ces fameux jeux hein, et ces fameuses vies que l'on rachète. À tout de suite.
RTL.
On est fait pour s'entendre.
14h30, 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
Delphine vous rejoint, Jean-Pierre Rosenzweig. Pourquoi une généralisation de la violence chez les jeunes? Tous les jeunes n'ont pas cette violence en eux. Et heureusement, nous parlons aujourd'hui d'une minorité, rose sur Facebook, qui sont conditionnés par ce qu'ils voient. La violence, la guerre, le manque de respect et de civisme sont banalisés et parfois aussi ils imitent les grands. On essaye de comprendre justement cette société et ces épisodes de violence auxquels on assiste quand même aujourd'hui et depuis quelques semaines et qui nous laissent sans voix. C'est la luciole. Peut-être que la violence a toujours existé, mais je trouve que le niveau des violences a augmenté. Comment des enfants de 14 ans peuvent en arriver à tuer une autre enfant? C'est la luciole. Si vous voulez témoigner sur cette antenne, on va essayer de vous joindre. On vous a laissé un message sur Facebook. Nicolas est en ligne avec nous. Vous nous avez livré vraiment une analyse très, très, très riche, hein, très variée de la violence. On va demander à Jean-François Dortier ce qu'il en pense.
Alors, effectivement, le terme « violence des jeunes », il faut rappeler quand même quelques éléments. Mm-hmm. En France, il y a environ 6 millions de collégiens et lycéens. Les dernières statistiques qui ont été faites, parce que la police cherche à mesurer ces bandes, ces fameuses bandes. Depuis 2010, il y a même des brigades spéciales de policiers qui cherchent à les repérer. Sur le territoire français, on en a repéré environ 300, à peu près 200 dans la région parisienne et 100 dans l'Essonne, là où il y a eu récemment les deux risques principaux. Si vous considérez que ce chiffre, il vaut ce qu'il vaut, hein, 300, mais vous faites une bande et avec 30 personnes, ça fait, allez, grosso modo, 1000 personnes. Face aux 6 millions de jeunes, les 6 millions de jeunes qui sont au collège et au lycée, ils rentrent de l'école, du lycée, ils font leurs devoirs, ils font de la musique, ils vont sur les jeux
ils
vidéo, sur les jeux vidéo, ils s'entretuent, ça ne les transforme pas en serial killer. Et alors vous avez de temps en temps des poches d'ultra-violence, c'est de ça dont on parle aujourd'hui. On ne parle pas des jeunes de la violence, on parle de quelques poches d'ultra-violence où, sur une base qui est effectivement des conflits qui sont traditionnels, qui sont anciens, parce qu'avant il y en a eu d'autres, ils passent à un moment donné deux ou trois phénomènes très important, très grave, comme ceux qu'on a vus avec Youri, avec la petite Lilibel, ou avec l'assassinat, on peut le dire directement.
L'assassinat d'Alisha. D'accord, mais néanmoins, ce qu'on interroge aujourd'hui dans notre émission, c'est le rapport à la violence. Et on a quand même le sentiment, Michael Stora, enfin moi j'ai ce sentiment, je suis assez effarée de ce que j'entends, même si c'est un phénomène qui a toujours existé. Est-ce que les jeunes mesurent ce qu'est la violence aujourd'hui, comme nous on pouvait le mesurer à l'époque, ou quand on se prenait un coup de poing dans le foie? Enfin bon, moi j'ai pas vécu ça à la sortie de l'école, mais voilà, on savait de quoi il retournait. Est-ce que les jeunes ont conscience de ce qu'est la violence? Je vais vous demander après, hein, Jean-Pierre Rosenzweig.
Oui, alors, évidemment qu'il y a d'abord, je reviens un peu sur la question de la parentalité. Très très tôt, les enfants sont normalement éduqués dans la capacité à prendre en compte le corps de l'autre. D'une certaine manière, il y a des sortes de lois symboliques qui s'instaurent déjà très tôt. Mmh. Et c'est évident que ça a été évoqué à travers des contextes violents. Ayant travaillé pendant 9 ans à Pantin, qui était à un moment la banlieue où il y avait le plus grand nombre de troubles du comportement violent, on repérait quand même le fait que, finalement, il y avait déjà une violence, aussi bien au sein de la cellule familiale, chômage, toutes sortes de choses, une violence aussi contextuelle. Mmh. Et à partir de ce moment-là, nous avons le terreau pour peut-être une non-prise en conscience, tout simplement, de la violence comme une manière de se sentir exister. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de désespoir existentiel avec un autre phénomène qui a déjà été observé depuis bien longtemps, c'est le phénomène de la bande et des foules. Souvent, une personne seule n'aurait pas cette capacité à pouvoir agir. Et là, la foule vient créer un phénomène de régression avec une forme de violence fondamentale.
Justement, est-ce que les réseaux sociaux ne permettent pas à des meutes de se constituer aussi, Michael Stora? Parce qu'on a beaucoup de messages qui vont dans ce sens-là. Les jeunes ont de plus en plus de moyens d'être violents grâce aux réseaux sociaux. Ils sont non seulement violents, mais ils sont également anonymes, nous écrit Aurélie.
Oui, alors je ne suis pas sûr que les bandes se créent sur les réseaux sociaux.
Il y a quand même l'effet de meute.
Évidemment, mais en effet, on a vu des lynchages, malheureusement, ce qu'on appelle les fameux cyberbashing ou cyberharcèlement, où une personne va être visée, même si on sait que très souvent, c'est d'abord dans le réel que ça va commencer. Et en effet, la caisse de résonance très inquiétante va finalement créer une forme de lynchage d'une personne. Et ça peut, et comme on a vu quand même avec l'histoire de Aïcha, ça s'est aussi fait dans la réalité. On va dire qu'on ne reste pas dans un phénomène que virtuel.
Non, mais vous parlez bien d'une caisse de résonance, Jean-Pierre Rosenzweig.
Bien sûr.
Vous les incriminez quand même, les réseaux, vous. Enfin, vous
je crois que je vous ai entendu. Facilite et amplifie. Maintenant, voilà. Je ne les mettrai pas en première ligne comme responsable.
Non, mais enfin, bon, souvent, c'est une nouveauté dans la violence.
C'est les journalistes qui sont à l'origine du problème. Non,
j'entends.
C'est quand même les hommes politiques qui sont à l'origine des débats. Pour répondre à votre première question tout à l'heure sur la violence, le rapport des jeunes à la violence, je pense qu'effectivement, ils ne mesurent pas que ce sont des actes de violence, parce que c'est, pour eux, ce sont des actes banals. Ils vivent banalement dans la violence. Violence de la vie au quotidien, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan des conditions de vie, tout simplement. Mmh. Je vous rappelle que nous sommes en plus dans une période, j'allais dire, où c'est difficile de vivre. C'est difficile de vivre pour le bourgeois qui a une maison à l'île dorée, mais c'est encore plus difficile pour un certain nombre de jeunes. Donc je pense que leur vie, c'est une violence. Ce dont nous parlons, c'est-à-dire les quelques milliers qui posent problème. Et deuxièmement, pour répondre à votre question, et avec une anecdote, je pense qu'ils ne mesurent pas la conséquence de leurs actes. Je me souviens de cette histoire de Bondy, où dans le cadre de Rixe, là encore, un jeune avait mis un coup de couteau au cœur d'un autre enfant, d'un très jeune enfant, pour lui voler ou pour lui prendre sa montre. Et au moment du renouvellement de la garde à vue devant le procureur de la République, il prenait des nouvelles de celui à qui il avait donné un coup de couteau. Il est rentré chez lui, et nous, on lui a appris que non, quand on donne un coup de couteau au cœur à quelqu'un, il meurt. Donc je pense qu'ils vivent banalement dans la violence et ils ne voient pas les conséquences d'un certain nombre de leurs actes. C'est pas pour les excuser, c'est pour essayer de comprendre et voir quelles stratégies nous devons mettre en place pour lutter contre.
Alors, on va passer par l'information. Nicolas, je vous remercie d'être intervenu sur cette antenne.
Je voulais juste préciser que, contrairement à ce que a dit votre interlocuteur, je condamne
je pense que c'est
les
vous,
violences
Jean-Pierre.
Aux femmes.
Évidemment.
Je condamne les violences aux enfants, bien sûr, la pédophilie. Et moi, je ne suis pas un voyou. Ça m'a juste permis, lorsque j'étais au lycée ou au collège et que j'ai eu ces petits bagarres, de m'affirmer. Et après, ça s'est terminé, plus personne m'a embêté.
Alors, donc, le message est passé.
Voilà,
le message est passé, je
merci.
Pense. Merci beaucoup. Jean-Pierre Rosenzweig, c'était pour vous. Olivier Bois vient de rentrer dans ce studio. On va parler des infos, à tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand sur RTL, jusqu'à 15h30.
Monique a 73 ans, je n'ai pas le souvenir que c'était aussi violent à mon époque, nous écrit-elle. Mes enfants n'ont jamais subi de violences gratuites. Je pense que malheureusement, la démission des parents et les réseaux sociaux y sont pour beaucoup. On n'a pas pu remercier Michael Stora, il y a un instant, qui a passé donc une demi-heure en notre compagnie. Merci à vous, Michael, de nous avoir donné votre éclairage, justement, en tant que psychologue et spécialiste des réseaux sociaux. Patricia, mon fils a 7 ans, il a été victime d'une petite bande du même âge. Il a fallu le changer d'école. Patricia, si vous souhaitez composer le 3210, je vous attends. Mais pour l'heure, on donne tout de suite la parole à Fanta Macalou. Bonjour Fanta Macalou, merci d'être avec nous.
Bonjour tout le monde.
Merci pour votre patience, Fanta. Vous vivez à Villeneuve-Saint-Georges et vous, en tant que mère de 4 enfants, 3 garçons et une fille, entre 4 ans et 18 ans, vos enfants, avec d'autres mères de famille justement de votre quartier, vous avez décidé de vous emparer de la problématique dont on parle aujourd'hui, qui est de la violence chez certains jeunes. Ça se traduit par quoi, Fanta ?
Mais en fait, moi, j'ai connu ma ville, la ville de Villeneuve-Saint-Georges, j'avais 18 ans.
Oui.
Donc, j'ai assisté en fait à la transformation de cette ville, la délocalisation des services publics, le décrochage scolaire des élèves. Voilà, donc plein de problématiques et la segmentation de la population. Donc le quartier, quand ça a commencé à bouger un tout petit peu, j'ai deux voisines qui sont venues me voir, qui m'ont dit « si on reste comme ça, la situation va se dégénérer, ça va se dégrader, je pense qu'il va falloir créer le dynamisme en fait dans le quartier ». Donc on a commencé en 2012, à mener de petites actions, le nettoyage du quartier. Et en 2014, on a vu que la violence prenait quand même de l'ampleur.
Ça se traduisait par quoi, Fanta ?
Mais c'est des fusillades. Juste un regard dans le bus, voilà, ça peut déraper. Donc voilà.
Avec des armes tout...
Oui, oui.
Voilà.
Des coups de couteau, des coups de des fusils, je dirais très, très clairement, parce que c'est sans tabou. Nous, nous ne sommes pas dans la victimisation et nous ne sommes pas des fatalistes. Donc, nous sommes des maires du quartier. À un moment donné, il va falloir que chacun prenne ses responsabilités. L'éducation, à la maison, dans la rue, dans les écoles. Donc, on s'est donné la main et c'est... En 2019, quand on a perdu trois jeunes de Villeneuve, 19 et 21 ans, et dans le quartier du Plateau, on était complètement bouleversés, en fait.
Je comprends.
Parce que pour nous, c'était comme si c'était l'échec. Depuis 2012, nous, on était sur le terrain, on essayait de faire des choses. Et il y a une maman qui s'est levée et elle a dit « Maintenant, stop, c'est bon ». On voit partout des discours de division entre la police et cette jeunesse qui est complètement perdue. Nous, les parents, à partir de cet instant, de 22h jusqu'à 2h du matin, nous allons sillonner toutes les rues. Et on va faire rentrer les enfants mineurs.
Alors, dans ces cas-là, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites entre 22h et 2h du matin?
Donc, au début, en fait, on a recenser les coins, les endroits qui sont vite un peu des zones interdites.
Les zones interdites, donc
où il y a des activités délictueuses. Et on allait à la rencontre des jeunes, moins jeunes, et même des parents, parce que il faut faire avec la famille. On ne peut pas tout le temps culpabiliser, en fait, on n'est pas dans le jugement. Nous sommes dans l'entraide et la solidarité, on fait en parallèle avec la famille. Ce n'est pas à nous d'éduquer l'enfant, mais on tient le même discours avec l'adulte qui est en face de nous. Et à un moment donné, je pense qu'on a besoin de ça. À Villeneuve, ça fonctionne au jour d'aujourd'hui, depuis 2019. tout est calme. On n'a pas eu d'incident majeur, on va dire. Le calme revient, mais ça reste fragile. Donc on continue et on se modernise parce qu'on a créé un groupe WhatsApp justement pour donner l'alerte dans le quartier quand on voit le regroupement ou le rassemblement des jeunes. Les mamans, elles nous alertent en fait sur le groupe WhatsApp. Et il y a des moments, parce que c'est quand même des habitants du quartier, donc il y a tout le temps du monde, des bénévoles qui sont prêts en fait à descendre dans la rue.
Alors,
il y a quand même le respect, voilà.
Alors, on va se retrouver dans un instant, Fanta, parce que vous allez nous expliquer effectivement ce que vous leur dites à ces jeunes. Est-ce qu'ils prennent conscience des choses? Vous nous dites que le calme est revenu, que c'est un calme fragile néanmoins, mais par quoi votre action passe-t-elle? Ce sera dans un instant. Et puis, je vois Jean-Pierre Rosenzweig qui prend des notes, donc évidemment, votre initiative de maman concernée suscite bien les réactions. À tout de suite sur RTL.
RTL, Flavie Flamand. 15h30, 15h30. Flavie Flamand sur RTL.
Ça débat dans ce studio. On se demandait avec Alexandra, la productrice de cette émission, si vous alliez en venir aux mains, messieurs.
Eh bien, ouais, pas loin.
Ah bah oui, on parle de la violence des jeunes. Tiens, certains nous expliquent, Marlène, pas plus qu'avant, mais toujours pas moins, tant que les adultes seront violents envers eux, quand les gens comprendront ça. En tout cas, les jeunes sont en souffrance. Qu'est-ce que vous en pensez, justement, Jean-François Dortier? Est-ce qu'effectivement, aujourd'hui, en dehors de la parentalité, on va revenir, hein, justement, avec Fanta Macalou qu'on est en train de rappeler, mais est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'on ne montre pas l'exemple? Notre société ne montre pas l'exemple, n'est pas tutorale pour la jeunesse.
Je pense que ce n'est pas la façon dont on prend les adultes, comme la grande majorité des jeunes, sont des gens pacifiques. Ils ne se battent pas, ils sont bienveillants, ils sont plutôt gentils et communicatifs. Ce n'est pas vrai que nous donnerions un mauvais exemple aux jeunes. Et au demeurant, l'immense majorité des jeunes sont pacifiques aussi. Mettons-nous dans la peau d'un jeune de 15-16 ans qui participe à une bande pour essayer de comprendre ce qui l'amène à être violent. D'abord, il n'est pas vrai que les jeunes... Un jeune qui utilise la violence au quotidien, il n'a pas conscience. Il a parfaitement conscience. Nous sommes des gens bienveillants et gentils et pour qui la violence, c'est le mal. Alors que quand vous êtes dans la rue, quand à l'école vous êtes en échec scolaire, que vous ne participez, vous n'êtes pas excellent dans le sport, pas excellent dans la musique, que le travail et la famille ce sont pas des modèles pour vous parce que c'est pas dans votre environnement, à un moment donné, vous pouvez, si vous êtes bon, un bon fighter, si vous savez vous battre et si vous savez vous faire respecter, eh bien ça devient un atout. Ça devient un atout pour pouvoir vous défendre, ça devient un atout pour avoir des alliés, ça devient un atout pour séduire des filles aussi, voilà. Parce que les bad boys, c'est aussi glamour. Et à un moment donné, la violence est une arme. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est une arme de défense et vous constituez des groupes qui sont violents et qui savent parfaitement qu'ils sont violents. Et la virilité et la force, c'est tellement à l'inverse de nos valeurs qu'on a le sentiment qu'en les éduquant mieux, ils vont devenir pacifiques. Alors que ces petits groupes-là, c'est vrai pour l'immense majorité des autres jeunes, mais les petits jeunes, les petites bandes pour qui la violence est une arme, est une façon de s'affirmer, c'est une contre-société, c'est un microcosme. Et donc ce n'est pas par l'éducation, puisque l'éducation c'est même le lieu où ils sont rejetés.
Alors justement, Fanta Makalou, vous êtes une maman, vous vous êtes emparée avec d'autres mamans du quartier de cette violence que vous avez constatée ces dernières années. Si la violence est une arme, comment est-ce que vous avez désarmé les jeunes du quartier? Qu'est-ce que vous leur dites concrètement?
Mais nous, c'est pas la même relation en fait, que ça soit la police ou même les pères de famille.
Bien sûr.
Parce que c'est ce que je dis. Il y a beaucoup de gens qui nous posent la question et les pères. Moi, quand je suis dans la rue, mon mari il s'occupe de mes propres enfants, en fait. C'est mes enfants à moi, parce que c'est des enfants de la République. Donc, je me dis, à un moment donné, il va falloir qu'on fasse quelque chose ensemble et mettre tous les acteurs autour de la table. Mais c'est pas la même relation dans nos quartiers, en fait. Moi, ils nous ont beaucoup, beaucoup respectés. Pendant des mois et des mois, des semaines et des semaines, ou je dirais même maintenant plus d'un an, à être derrière eux, aucun incident. À aucun moment, ils nous ont insultés ou ils ont été agressifs avec nous.
Ouais.
Voilà.
Ouais,
donc, c'est pourtant, moi, vrai. je me dis, à un moment donné, il faut occuper l'espace public. Il faut aider ces mamans dans tous les quartiers, parce que là, on a quand même les villes voisines qui nous ont demandé à les accompagner, les mamans qui sont là-bas, parce qu'elles sont complètement démunies.
Bien sûr.
Nous, à notre, il faut pas être dans le jugement. Il faut être dans l'entraide, la solidarité, et voilà, ensemble, essayer de faire quelque chose, occuper l'espace public et tendre la main à ces jeunes.
Alors, Monique, vous écoute. Monique vous écoute et nous écrit Fanta, quel courage, je vous admire, bravo, s'il y avait plus de personnes comme vous. Pardon Fanta, on est en direct, le temps file, je voudrais que Jean-Pierre Rosenzweig puisse répondre à votre témoignage. Est-ce que finalement Fanta et les autres mères de famille s'emparent de ce que devraient faire les pouvoirs publics?
Je voudrais justement réagir sur mères de famille. Moi je suis admiratif devant ce qu'elles font, mais je suis inquiet que ce ne soit que des femmes.
Ouais,
sont
je
les
suis
pères.
D'accord.
Et derrière
c'est
cette
pour ça
remarque,
qu'elle nous disait que les mères étaient plus respectées que les pères. Hein.
Et derrière cette remarque polémique, ou un peu provocatrice que je fais, mais qui est aussi une réalité, hein. Moi, la question qui se pose, c'est celle de l'exercice des responsabilités parentales. Mmh. C'est qui a vocation à exercer des responsabilités en direction des enfants à l'heure actuelle? Et c'est rejoindre le débat sur la violence. Moi, je fais comme analyse, je pose comme analyse que ces jeunes qui sont dans la violence sont fondamentalement dans l'abandon, dans la déshérence et très rapidement dans la toute-puissance. Dans la toute-puissance à la maison, ça, je l'ai vu comme juge pour enfants, et dans la toute-puissance dans le quartier. Alors oui, bien sûr, comme vous le disiez, ils sont conscients de la violence, ça c'est clair. La violence, c'est un atout. Mais d'ailleurs, pour nous, il faut être violent pour vivre, pour survivre. La vie, c'est quoi? C'est la violence contre la mort. La violence, pour réussir sur le plan la vie quotidienne, il faut se battre dans l'entreprise. Regardez les jeux télévisés. C'est des jeux d'exclusion, c'est des jeux de violence. Alors effectivement, ils savent ce qu'est la violence. La question qui est posée, c'est celle de la maîtrise de la violence. Permettez une anecdote en une phrase. J'ai été agressé l'autre jour. Enfin, pour me piquer mon téléphone, gare de Lyon. Et j'ai réagi, vu ma taille. Hein, et j'ai pris au collet mon agresseur, qui par ailleurs était un gosse que j'aurais pu avoir dans mon cabinet. Et je me suis vu en train de l'étrangler, si vous le voulez. Mais moi, j'étais formé à maîtriser ma violence. Et je me suis dit, Jean-Pierre, arrête, tu vas l'étrangler, tu vas le tuer, quoi. Donc ça s'est joué sur une, deux, trois secondes. J'ai usé de la violence parce que j'étais agressé. Et j'ai réussi à maîtriser ma violence. Les gosses dont nous parlons ne sont n'ont pas été formés à maîtriser la violence. Ils parlent à 150 à l'heure avec 300 mots, avec une mitraillette. Ils n'ont pas appris à maîtriser le langage physique et le langage corporel.
Vous aussi, hein, vous êtes une mitraillette. On va se retrouver dans un instant. Je parle de votre langage, évidemment. Fanta Makalou, merci beaucoup d'avoir témoigné sur cette antenne. Merci. Je vous embrasse. Merci. Dans un instant, c'est la Luciole qui est une maman inquiète et puis Mohamed qui vont témoigner. À tout de suite.
On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL. Jusqu'à 15h30. Flavie Flamand sur RTL.
Elle nous a écrit un message sur Facebook. On vous a, on a cherché à vous joindre et vous êtes avec nous. Bonjour, c'est la Luciole.
Oui, bonjour Flavie.
Est-ce que vous avez un prénom ou est-ce que vous préférez ne pas le dire ?
Carole.
Ah, merci. Bonjour Carole. Non, mais c'est vrai que sur les réseaux, on est un peu anonyme. On a nos, nos pseudos. Carole, soyez la bienvenue. Merci d'être avec nous. Alors
merci.
Vous, est-ce que tout ce qui se dit dans cette émission vous inquiète ?
Ah oui, complètement. Moi, je suis, ce que je disais à votre collègue, j'ai 48 ans, j'ai deux enfants, deux garçons de 9 ans et 14 ans.
Ouais.
Et je lutte au quotidien pour essayer de les préserver, entre guillemets, de ne pas les exposer à la violence. Je me bats contre Fortnite.
Ouais.
Même les journaux télévisés, voilà, je veux pas qu'ils les regardent parce qu'il y a de la violence. Enfin, moi, je suis vraiment très inquiète. Vous disiez, moi, je trouve que la violence, effectivement, elle a toujours existé, mais les frontières, les limites ont été repoussées. En fait, je trouve que, et moi, ça m'inquiète énormément. Moi, en tant que parent, j'essaye de faire mon maximum pour ne pas exposer mes enfants. C'est vraiment une lutte. En fait, au quotidien, de ne pas les exposer, parce que j'ai l'impression que c'est présent partout. Quoi.
Est-ce que pour vous, c'est une lutte vaine, je dirais, puisque de toute façon, la violence, ils l'ont dès qu'ils sortent, ou dès qu'ils sont sur leur smartphone, ou dès qu'ils sont dans la cour de récré.
Bah, c'est un peu ce que me dit mon mari. Il me reproche de vouloir les faire vivre dans un monde de bisounours.
Alors, justement, d'aucuns pourraient vous répondre, oui, mais en même temps, Carole, tu ne les armes pas d'une façon ou d'une autre
c'est
pour
ça,
le monde qui est le leur. C'est ce que l'on vous objecte.
C'est comme dit mon mari.
Ouais.
Mais moi, je disais sur Facebook, je voyais quand il y a eu les jeunes qui ont tué de 14 ans, c'est l'âge de mon aîné. Je ne peux pas imaginer comment des jeunes de cet âge-là arrivent à faire une chose pareille. Ça me bouleverse. Et je ne comprends pas. Et du coup, j'essaye de réfléchir de mon côté. Mais moi, je continue à essayer de limiter les jeux comme Fortnite, interdiction de jouer à Call
of Duty. Oui, c'est ça. Mais est-ce que vous avez je me tourne vers Jean-François Dortier. Oui, c'est ça. Mais en même temps, nous, gamins, on les a vus plus tard. Mais il y avait quand même Orange Mécanique. On a été confrontés à la violence aussi.
Attendez,
Jean-François
Carole,
Dortier est avec nous. Hein, il est humanologue.
Rassurez-vous, Carole, vos enfants ne vont pas devenir des serial killers, au motif qu'ils jouent avec Fortnite. Une immense majorité de jeunes aujourd'hui ont été élevés, si on regarde le nombre d'images qu'ils ont vues sous les yeux, le nombre de meurtres, de sang qui gicle, de jeux effectivement avec cette vie, l'immense majorité est pacifique, comme vos enfants, ils ne se battent pas. Peut-être qu'il y a eu quelques bousculades dans les cours d'école,
enfin,
mais
ça,
c'est
ça fait
à peu près
la...
tout.
Oui.
Nous vivons entourés dans des images de violence, des images de guerre, des images de terrorisme, des jeux vidéo, des séries policières qui nous inondent de sang. Et pourtant, nous sommes des gens très pacifiques. Et vos enfants sont des enfants pacifiques. Et ils vont
à l'éducation que vous leur donnez aussi.
Grâce à l'éducation, grâce à l'école, grâce aux associations, grâce aux valeurs, grâce aux cultures. Donc, on parle ici d'un petit nombre de gens qui sont localisés dans des microcosmes qu'il faut surveiller, observer, intervenir, et non pas de la jeunesse et de la violence.
Jean-Pierre Rosenzweig, vous êtes ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette maman inquiète ?
Ah non, mais je reprends ce qu'il a dit à l'instant. Oui. Ces enfants ne sont pas prêts de passer en cour d'assises. Il faut la rassurer tout de suite.
Non, mais qu'ils soient heurtés par la violence du monde, ça je peux le comprendre. Hein.
Ah ben là, parce que
je pense que c'est ça aussi, Carole. Vous ne voulez pas faire des délinquants, c'est avoir des enfants qui sont...
violent, regardez un journal télévisé, et encore, il est édulcoré. Et puis, il n'y a pas que cette violence-là. Il y a la violence, effectivement, avec du sang, qui est généralement de la sauce tomate dans les films, mais il y a d'autres types de violences, les violences intrafamiliales. Les coups donnés par les hommes aux femmes, etc. Oui. C'est bien plus violent au quotidien, c'est les études américaines qui le montraient. Donc, je suis d'accord avec vous, il ne faut pas généraliser. Maintenant, il n'empêche qu'une partie de la population de ce pays est en situation de fragilité.
Un certain nombre de jeunes
n'ont pas la protection parentale qu'ils devraient avoir, et beaucoup de parents sont eux-mêmes en grande difficulté.
Je dois vous dire au revoir, Jean-Pierre. Merci. Voilà. Mais avant, je vous remercie, Carole, de nous avoir appelés. C'était très intéressant de vous entendre. Merci à vous. Prenez bien soin de vous et de vos enfants. Jean-Pierre Rosenzweig, merci beaucoup. Rendre justice aux enfants, c'est aux éditions Le Seuil. Les droits de l'enfant pour les nuls aux éditions First. Et chez Dalloz, vous venez de me l'offrir, ça tient dans la poche. La justice et les enfants, dont c'est la deuxième édition. Merci beaucoup, Jean-Pierre Rosenzweig. Merci beaucoup, Jean-François Dortier. Je rappelle donc votre revue, L'Humanologue. C'est une revue trimestrielle. Voilà, très intéressante. Merci, Jean-François Dortier. À bientôt sur RTL. Nous, on se retrouve demain dès 14h30. Évidemment, nous serons en direct pour discuter ensemble. Prenez grand soin de vous. À demain.
RTL. On est fait pour 100 ans.